monde il est bon, tout le monde il est gentil.
Dans les années 1980, on a présenté au grand public l'ordinateur et comme une avancée majeure en termes d'écologie, celui-ci permettant d'économiser le papier tout en gaspillant les ressources et l'électricité, ce qui n'a pas été dit évidemment. Aujourd'hui, il semble évident que le numérique ne permet pas d'économiser le papier, en tous les cas en termes d'habitudes publicitaires, puisque celui-ci vient encore régulièrement doubler le message électronique. De plus, l'avènement des imprimantes, scanners et autres gadgets du même type encourage les citoyennes et citoyens à devenir des entrepreneurs d'eux-mêmes, leur permettant du coup de devenir des agences publicitaires d'eux-mêmes, ces agences de publicité individuelles gaspillant d'autant désormais électricité, papier, encre et j'en passe. Ces nouveaux usages amènent de plus à gaspiller son temps de vie en des entreprises où il s'agit d'être visible dans des réseaux sociaux de télécommunications, chose que le encombrement généralisé ne peut évidemment plus garantir. Mais comme dans toute opération publicitaire, ce qui importe, c'est que l'usager, lui, y croit. Une étape supplémentaire dans ce chaos de l'illusion du lien social est en train d'advenir avec la crise du coronavirus. Effectivement, il semblerait bien que, plutôt que d'admettre que le confinement provoque l'isolement et de profiter de ce changement pour faire advenir de nouvelles manières de vivre ensemble ou individuellement, on préfère continuer de s'accrocher à une illusion de lien social par l'outil informatique et à s'abrutir, encore plus qu'avant, derrière des écrans où, comme des enfants, on contemple un conte de fées en livre d'images animées où, finalement, plus personne ne vit véritablement, en dehors du souci d'avoir à se représenter dans une sorte de spectacle permanent où, tour à tour, on s'admire et s'applaudit mutuellement. Il s'ensuit naturellement une sorte d'état de sidération collective où, l'admiration béate succédant à l'admiration béate, il semble bien que plus rien ne soit désormais en mesure de freiner les ardeurs de ce comportement énergivore et socialement délétère. À tel point d'ailleurs qu'aux dernières nouvelles, le cloud, nuage donc, soit en train de chauffer. Il n'est d'ailleurs pas le seul, puisqu'il faut bien que quelque chose le fasse chauffer, et en l'occurrence, la bêtise humaine qui semble bien se trouver, elle aussi, en état d'échauffement majeur. Cet échauffement du cloud vient d'ailleurs mettre en évidence un autre point que l'on préfère ignorer, celui de l'air, réputé immatériel parce qu'il est le vecteur invisible de nos âneries, et qu'il chauffe également, lui aussi, sous les assauts sans cesse renouvelés de fréquences, hautes fréquences, micro-fréquences, et là aussi j'en passe, et qui sont censés nous permettre d'aller de plus en plus vite dans ce mur dont tout le monde parle, sans y croire vraiment. Mais qu'importe tout cela finalement, l'ensemble de ces inepties restant elles aussi confinées dans l'ignorance la plus totale de ce que devrait réellement être l'existence de l'immatériel. À savoir peut-être l'existence plus réelle, elle, de l'esprit humain un peu mieux éclairé au sujet de ce qui est et reste sa condition matérielle dans une vie véritablement incarnée. En attendant, nos vies de plus en plus désertées de cet esprit que l'on prétend cultiver nous laissent pantois et hébétés devant une évidence qui n'a jamais cessé d'exister. En dehors de nos esprits, nourris aux télécommunications, il faut aussi, et d'abord, nourrir nos corps. Et donc, ruer sur l'approvisionnement de nourriture bien réelle, elle. Ce bref préambule couvre, en tant que chapeau, le texte dont nous vous donnons lecture dans ce billet. Il s'intitule « Le numérique carbure au charbon » a été écrit par Sébastien Broca et publié dans Le Monde diplomatique de mars 2020.
Partenariat de gens de la Silicon Valley avec l'industrie pétrolière, consommation massive d'énergie et de ressources, Contrairement à ce qu'on a longtemps affirmé, l'économie numérique n'est ni matérielle ni verte. Elle produit des dommages écologiques importants dont les conséquences sont très également réparties à la surface du globe. C'est l'histoire d'un ingénieur de Microsoft que son employeur envoie à Atyraou, sur le plus grand site pétrolier du Kazakhstan, exploité par Chevron en partenariat avec l'État kazakh. Là, il participe en séminaire sur la manière dont l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage, cloud computing, peuvent rendre l'industrie pétrolière plus efficace. Devant des cadres dirigeants qui ne comprennent pas grand-chose au jargon dont ils les abreuvent, il joue, en se forçant un peu, la partition que Microsoft lui a demandé d'interpréter. Les enjeux sont importants. En 2017, Chevron a signé avec l'entreprise fondée par Bill Gates un partenariat de 7 ans, afin d'en faire son fournisseur de services à distance. Depuis cette date, Microsoft stocke et analyse les téraoctets de données qui recrachent chaque jour les puits de pétrole couverts de capteurs. À Atyraou, le séminaire prend toutefois un tour un peu inattendu. Les cadres de Chevron questionnent l'ingénieur sur la possibilité d'installer des outils de surveillance sophistiqués qui permettraient de détecter algorithmiquement les comportements suspects parmi les travailleurs du site ou d'analyser leurs courriers électroniques personnels. À son retour aux États-Unis, il a le sentiment d'avoir vécu une expérience surréaliste où toutes les personnes présentes discutaient, l'air de rien, de la mise en place d'un dispositif panoptique de surveillance au travail. Il décide alors de raconter son séjour dans un long article. Depuis quelques années, les rapprochements entre les principaux acteurs du capitalisme numérique et les grandes compagnies pétrolières se multiplient. Amazon a créé le service d'informatique au nuage, AVS Oil and Gas Solutions, financé des conférences de l'industrie pétrolière et recruté de nombreux experts en intelligence artificielle spécialisée dans les applications au secteur de l'énergie. Google a de son côté signé des accords avec Total, Anadarko et Nine Energy Service, tout en lançant sa division Oil, Gas and Energy au sein de Google Cloud. Quant à Microsoft, il a conclu des partenariats non seulement avec Chevron, mais également avec BP, Equinor et Exxon. Ces alliances sont dues aux perspectives ouvertes par les données des masses, Big Data, et par l'intelligence artificielle. L'industrie pétrolière compte sur ces technologies pour localiser plus précisément les réserves et réduire ses coûts grâce à l'automatisation. Les géants du numérique y voient de leur côté un marché juteux pour leurs services de stockage et de traitement des données, mais aussi pour leurs solutions d'apprentissage automatique, machine learning. Seule ombre au tableau, ces partenariats font tâche alors que les services de communication rabâchent l'engagement sans faille de la Silicon Valley en faveur des énergies renouvelables. Sommé par certains de ses salariés de renoncer à toute collaboration avec l'industrie pétrolière, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, expliqua en septembre 2019 qu'il ambitionnait d'apporter à l'industrie pétrolière les meilleurs outils possibles pour effectuer sa transition. Stopper la dépendance aux combustibles fossiles en aidant les principaux fournisseurs à rendre leurs affaires plus profitables, il fallait effectivement y songer.
Ravage de l'Internet des
Ravage
objets.
Ravage de l'Internet des objets.
Si l'extraction du pétrole et celle des données constituent les deux faces d'une même pièce, c'est en réalité toute l'opposition entre le capitalisme thermo-industriel né en 19e siècle et un capitalisme numérique prétendument immatériel, post-industriel ou vert qu'il faut remettre en question. L'informatique au nuage commence avec le charbon, affirmé en 2013 un rapport du consultant Mark Mills, financé par l'industrie minière. Nos sociétés numériques poursuivent en effet une trajectoire historique entamée il y a 2 siècles au Royaume-Uni, avec l'exploitation à grande échelle du charbon. Depuis, la consommation mondiale de ce combustible n'a cessé d'augmenter, malgré l'addition progressive d'autres sources d'énergie primaire, gaz naturel, pétrole, nucléaire, solaire, etc. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'utilisation du charbon, tirée par la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, ne devrait pas décliner ces prochaines années. De manière générale, la consommation énergétique mondiale croît toujours, plus de 3% en 2018, et elle découle encore à plus de 80% des énergies fossiles. La quantité d'énergie nécessaire pour produire de l'énergie croît également à mesure que sont exploités des gisements de plus faible qualité ou des hydrocarbures dits non conventionnels, comme les sables bitumeux. Ainsi, ce que les spécialistes appellent le taux de retour énergétique ne cesse de décliner. Alors que, il y a un siècle, il fallait en moyenne un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, le même baril n'en produit dans certaines zones de forage que 35. Certes, l'économie numérique n'est pas seule en cause, mais elle participe grandement au maintien de cette trajectoire funeste, selon deux rapports récents, et représente plus de 4% de la consommation d'énergie primaire au niveau mondial, et cette consommation augmente de 9% par an, à mesure que les pays émergents s'équipent et que les usages se diversifient. C'est la fabrication des terminaux et des infrastructures de réseau qui pèse le plus lourd dans ce bilan, suivi par la consommation des équipements, des réseaux et des fermes de serveurs, data center. La construction d'un ordinateur portable émet ainsi environ 330 kg d'équivalent de CO2, tout en nécessitant énormément d'eau et de matières premières, notamment des métaux comme le palladium, le cobalt ou les terres rares. Le fonctionnement de ces data centers génère à lui seul 19% de l'empreinte énergétique totale du numérique. Le simple visionnage en ligne des vidéos qui sont stockées au sein de ces gigantesques infrastructures matérielles aurait engendré en 2018 autant de gaz à effet de serre qu'en pays comme l'Espagne. En effet, si Apple et Google se targuent d'opérer avec 100% d'énergie renouvelable, c'est loin d'être le cas du principal acteur de l'informatique au nuage, Amazon. Selon un rapport de Greenpeace, son gigantesque centre de traitement en Virginie, où transite environ 70% du trafic Internet mondial, en intègre seulement 12%. Il bénéficie notamment de l'électricité bon marché, produite grâce au charbon des Appalaches, extrait en écrayant à l'explosif le sommet des montagnes avoisinantes. En Chine, c'est 73% des énergies consommées par les data centers qui provient toujours du charbon. Ces chiffres peuvent inquiéter lorsqu'on sait l'explosion prévisible de la quantité de données dans les années à venir, conséquence de la prolifération attendue des objets connectés. Plus fondamentalement, les technologies sur lesquelles repose le capitalisme numérique ont été conçues sans tenir compte de l'impératif écologique. Le champ de l'intelligence artificielle en offre un exemple édifiant. Une étude de l'Université d'Amherst, Massachusetts, a montré qu'un projet standard d'apprentissage automatique émet aujourd'hui, pendant l'ensemble de son cycle de développement, environ 284 tonnes d'équivalent CO2. Soit 5 fois les émissions d'une voiture de sa fabrication jusqu'à la casse. Comme le relève le chercheur Carlos Gomez Rodriguez, la majorité des recherches récentes en intelligence artificielle négligent l'efficacité énergétique parce qu'on s'est aperçu que de plus très grands réseaux de neurones, plus énergivores, sont utiles pour accomplir une diversité de tâches et que les entreprises et les institutions qui ont accès à d'abondantes ressources informatiques en tirent un avantage concurrentiel. Autrement dit, les géants de la technologie n'ont guère intérêt à mettre en point des méthodes plus sobres. Ils n'ont davantage intérêt à ce que leurs utilisateurs adoptent des comportements écologiques. Leur prospérité future nécessite que chacun s'habitue à allumer la lumière en parlant en enceinte connectée plutôt qu'en appuyant sur un bête interrupteur. Or, le coût écologique de ces deux opérations est loin d'être équivalent. La première nécessite un appareil électronique sophistiqué, muni d'un assistant vocal, dont le développement a consommé énormément de matières premières, d'énergie et de travail. Prenez simultanément l'Internet des objets et la lutte contre la crise climatique est un non-sens. L'augmentation du nombre d'objets connectés accélère tout simplement la destruction de l'environnement. Et les réseaux 5G devraient doubler ou tripler la consommation énergétique des opérateurs de téléphonie mobile dans les 5 prochaines années. Considéré sous l'angle écologique, le capitalisme numérique ne se réduit ni aux mastodontes de la Silicon Valley, ni au milieu de start-up. Il constitue plutôt une économie monde, au sens que l'historien Fernand Braudel donnait à ce terme, un ensemble cohérent d'acteurs économiques dont les relations sont structurées par une division entre centre et périphérie. La baie de San Francisco en est le cœur, et sa prospérité découle largement des relations asymétriques qu'elle entretient avec des espaces dominés, des mines de coltan africaines aux usines d'assemblage asiatiques en passant par les dépotoirs électroniques ghanéens. Dans ce système, les processus industriels engendrent des coûts écologiques inégalement répartis. Ainsi, les injustices environnementales prennent-elles la forme d'un échange écologiquement inégal, déclinaison de l'échange inégal théorisé notamment par l'économiste marxiste Arguerri Emmanuel dans les années 1960. Derrière l'apparente équité de l'échange monétaire, l'économie monde capitaliste repose sur des transferts asymétriques des ressources naturelles entre centre et périphérie. Quand une entreprise du Nord achète pour 1 000 $ des matières premières et lorsqu'une entreprise du Sud paye 1 000 $ de droits de propriété intellectuelle, les valeurs monétaires sont identiques, mais les impacts sur la nature ne le sont pas, car les centres externalisent les conséquences environnementales de leur développement. Le capitalisme numérique illustre parfaitement cette logique. La fabrication des ordinateurs et des téléphones portables absorbe à elle seule 23% de la production mondiale de cobalt et 19% des métaux rares. Or, le cobalt provient majoritairement de la République démocratique du Congo, où il est souvent extrait par des enfants dans des zones de conflit au mépris des droits humains et de l'environnement. Quant aux terres rares, la Chine domine leur production mondiale, mais au prix de pluies acides et d'une contamination en métal lourd de ces terres arables et de ses réserves en eau. Le journaliste Guillaume Pitron résume la situation. Les Chinois et les Occidentaux se sont tout bonnement répartis les tâches de la future transition énergétique et numérique. Les premiers se saliraient les mains pour produire les composants de la Green Tech, tandis que les seconds, en le rachetant, pourraient se targuer des bonnes pratiques écologiques. Le fonctionnement de l'économie monde numérique n'abolit pas les limites écologiques, il les déplace.
Nous remercions Claudia Pessina pour avoir prêté sa voix à la lecture de l'article de Sébastien Broca. À la conception, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Le Monde est beau.